Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Jean-Pierre. Ne parlera pas à son père et ne dira rien à sa mère pour ne pas lui faire du mal. Lui souffre, cela suffit. Et peut-être que son père aussi. Élise restera malgré tout. Malgré tout ça, Élise. Élise d'avant la présentation au père. Mais il se demande si elle l'a aimé ou joué avec lui. Il préférait qu'elle l'ait aimé. Le temps passe. À Paris, Nicolas déprime et pense à la mort. Il a peur que la vie fasse mal à Guillaume. Un soir, dans le lit, il le lui dit : j'ai peur de l'avenir, pour moi, mais aussi pour toi. Guillaume lui dit : tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes tous les deux. Nous avons du travail, la santé, la jeunesse. Que demander de plus ? Nicolas lui répond : tout se termine par la vieillesse. La mort, ou la mort sans la vieillesse. Et la vieillesse est peut-être plus cruelle que la mort. Je supporte vieillir, pour moi et les miens. Je ne supporte pas de voir se dégrader une personne que j'aime. Guillaume lui dit : il ne faut pas aimer que l'image de la personne. Il faut aimer ce qu'elle est. Si on aime vraiment quelqu'un, on supporte les épreuves du temps. Nicolas lui dit : même si cette personne est la perfection ? Oui. Alors ? Nicolas lui dit : alors, viens, c'est à moi contre moi. C'est à toi contre moi. La mort le hante toujours. Il se dit : ça se faisait, ça ne me faisait pas aussi peur de mourir, je me tuerais de suite. Et cette douleur suprême, ce trou, cette fin définitive fait peur. Autrement dit, qu'à force de penser à sa mort, de se voir mourir, de s'y imaginer tapis, de se voir, de ce que vont dire les autres, on doit s'habituer. Et cela doit devenir une hantise, un désir qui à force vous saoule et vous inoptise. Et en se relâchant, vous arrêtez sans arrêt, en vous rabâchant sans arrêt sa mort et ce qui se passe après. Une fois on a dû choisir comment on se donne la mort, la date et l'heure, on doit être plus libre. On doit se dire au moins, je sais quand je vais mourir et de quoi. L'angoisse doit partir. On doit prendre la chose d'une façon plus calme. Oui, d'une façon plus calme. Nicolas essaye un projet de film sur Nietzsche qu'il fera plus tard, car il faut que la chose se nourrisse d'abord. C'est parce qu'il a lu un livre qui a écrit sur lui, Stefan Zweig, très beau livre, avec de belles phrases bien enlevées. Décidément, il n'y a que les artistes, les écrivains qui sont capables d'écrire sur un philosophe. Donc, il décide de faire un film sur Nietzsche, ou plutôt l'histoire d'un homme qui vivrait les tourments qu'il a eus. Un homme qui vit dans une ville, se sent étouffé et décide d'aller vivre isolé à la campagne. Il loue une petite maison. Là, seul, il est pris par des tourments, se met à penser à la vie, au monde, s'enferme dans ses idées et dans lui-même, il veut recréer le monde. Il veut détruire Dieu et repenser le bien, le mal, pour créer un homme nouveau, un surhomme. Mais Dieu le tourmente et dialogue avec lui. Il lui fait subir plusieurs épreuves. Il y réussit et repense Dieu. Puis se bat avec les éléments pour recréer le monde et repenser le bien, le mal. Ils veulent un homme supérieur. Pour lui, un homme supérieur ne peut être bon. La bonté, c'est pour les faibles, etc. À la fin, après une lutte contre les éléments et ses pensées, il recrée Dieu et mort d'épuisement. Il a fait le tour de ses pensées, détruire et recréer, pour revenir à son point de départ, l'éternel retour. Ce qu'il crée voulait lui être imposé, ce qu'il croyait lui était imposé, maintenant il domine ce qu'il voit et croit parce que ça a été refait, recréé par lui-même. Il est devenu le créateur de sa création. Malheureusement, il en meurt d'épuisement, mais apaisé, seul dans le silence, ne pouvant plus écrire ni lire. Durant cette quête, il a des migraines, vomissements, mal au ventre, diarrhée, mal aux yeux, vertiges, etc. Pour jouer le rôle, Nicolas verrait bien Pierre-Max Roussillon dans un dialogue intérieur, un drame ou plutôt une tragédie à l'intérieur d'un homme. L'acteur ne parlera pas ou, mais en voix off, on entendra son dialogue intérieur et Dieu viendra lui parler. Il écrira aussi. Le tournage se fera dans un village abandonné, une maison, quelques meubles rudimentaires. Le bruit de la nature, des portes, des fenêtres, un peu de musique pour le passage pathétique. Un film un peu à la Bresson, comme le curé ou comme le journal d'un curé de campagne. Mais sûrement que Pierre-Max ne voudra pas. Il est très capricieux. À part sa chorale et son émission de radio, il est difficile de lui faire faire quelque chose. Pourtant, il serait très bien dans le rôle. Il a tout à fait le physique de l'homme tourmenté. Visage osseux, yeux fixes, gestes tremblants et peu sûrs. De toute façon, le sujet se fera plus tard parce qu'il a étudié de plus près la philosophie de Nietzsche. Benoît à Lyon s'est remis de son accident. Il est rentré chez lui. Il peut s'empêcher de penser à la jeune fille qui est morte près de lui. Sa femme a compris qu'il avait eu une liaison avec elle. Ils sont tous deux assis au salon. À force de le voir, elle n'en peut plus. Elle lui dit, tu devrais avoir honte d'avoir eu une liaison avec l'ami de ton fils. Toi aussi tu devrais avoir honte de faire la sortie des écoles. Elle le gifle. Il la gifle. Se lève et la quitte. Pendant ce temps, Denis se dit qu'il est impossible que son père ait eu une aventure avec Élise. Que si elle était dans sa voiture, c'est qu'il la raccompagnait quelque part. Il ne veut plus penser à tout ça, c'est trop horrible, et se lance dans son travail. Pendant ce temps à Paris, Nicolas en après-midi voit passer la voiture de la dame en noir qui se demande « Que fait-elle à Paris ?» Un peu plus tard, Guillaume traverse la rue. Il a été renversé par une voiture noire. Vite, le chauffeur se précipite vers lui, se penche, et avant qu'il ne réagisse, il lui enfonce une piqûre dans le bras. Et perd connaissance. Il se réveille dans un lit, une femme de grande beauté penchée sur lui. Elle a le cheveu brun, le visage très pâle. Il demande: où suis-je? Elle lui répond: il y a des questions plus romanesques à poser. Par exemple, qui êtes-vous? Je vous répondrai: je suis la personne qui est propriétaire de la voiture qui vous avait renversé. Et vous? Qui êtes-vous? Vous êtes chez moi. On va vous soigner. Vous serez très bien. N'avez rien de grave. Et on me dit: je peux me lever? Je me sens très bien. Sûrement bien. Elle lui dit: peut-être. Elle se redresse. Prend sur le temps, un vol, et retourne vers lui. Buvez, c'est un bouillon, c'est très bon. Il boit, puis se rendort. Le temps passe comme ça, dans un demi-brouillard, ne sachant pas vraiment où il est et pourquoi. Il reste allongé, très faible. Un soir, il ne sait pas. Elle est entrée dans son lit à demi nu. Elle lui a dit: je sais que vous êtes experte en jeu de lit. Je vous mets Charles-Emmanuel Danse. Vous savez ce que vous aimez. Il lui répond: je ne peux pas faire de jeu de lit avec vous. Elle lui dit: je sais pourquoi. Alors elle se lève, va dans un coin de la pièce et met le disque en route. Puis va vers lui, se couche et se fait coucher, se penche vers lui et lui fait des caresses expertes. Il lui dit: vous allez voir, ce sera mieux qu'avec Nicolas. Les caresses commencent à lui faire effet. Il se laisse aller, de toute façon, il est trop faible pour résister. Et désormais, toutes les nuits, elle va lui faire l'amour. Elle lui dit: il faut que vous m'aimiez. Il faut que vous m'aimiez plus que Nicolas. Plus que Nicolas. Tu dois le quitter pour vivre avec moi. Il se laisse aller. Elle lui donne des breuvages. Il se sent à elle. Il attend sa venue. Et ne peut vivre sans elle. C'est comme sa drogue. ne peut rien sans elle. Il est en manque. Et puis, un jour, elle lui dit, tu es guéri, tu vas retourner chez Nicolas, mais fais ce que je te dis, je le veux, ne peux résister à ses ordres. Bien, habille-toi, la voiture te ramènera à Paris. Elle se penche près sur lui, le prend dans ses bras et lui dit, ne crains rien, j'aurai toujours près de toi, mon amour. Habille-toi, fais vite. Habillé, on le mène dans l'auto et on le dépose devant son immeuble. On le fait sortir de voiture. Et entrer dans l'immeuble. Comme un automate, il monte jusqu'à l'appartement de Nicolas. Nicolas le regarde bien, le trouve bizarre. Voit qu'il a des gestes raides. Il lui demande « Qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ?» Il lui répond d'une façon neutre, calme. « J'étais l'hôte d'une femme, une amie. »« Quelle amie ?»« Une amie ? Où habite-t-elle ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Tu es sûr que tu es bien ?»« Oui, très bien. » »« Tu parles comme les personnages de Bresson. » Nicolas sent que Guillaume n'est pas dans son assiette. Il arrête de lui poser des questions, car il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche.
Allez, viens dans la chambre. On te reposera un peu. Tiens, allonge-toi un peu. Après, tu viendras manger.
Très vite, Guillaume devient nerveux, furieux, en réellement en colère. Un beefsteak qu'il juge mal cuit, il lâche l'assiette, la jette contre le mur. La musique trop forte, il casse le disque. Nicolas sombre. Il attend. Il ne supporte pas le soleil, n'a pas faim, ne dort pas, se tourne et se retourne dans le lit. Soupire, pousse des cris furieux, jette des couvertures, fume, prend des douches sans arrêt. Nicolas se dit qu'il lui manque quelque chose, mais n'ose pas lui parler à cause de ses fureurs. Puis, un jour, Guillaume reçoit une lettre qui lui dit, s'il veut se sentir mieux, une voiture viendra le chercher le lendemain devant chez lui. Il ne dit rien à Nicolas, mais déjà se sent un peu mieux à cause de la promesse pour le lendemain. Le lendemain matin, il sort de l'immeuble. Une voiture vient vers lui. Le chauffeur
ouvre la portière arrière de la voiture. Guillaume entre. C'est la même voiture que la femme. On l'amène chez la femme qui lui fait une piqûre.
Après lui avoir fait une piqûre, elle lui dit: vous sentirez mieux dans peu de temps. Allongez-vous. Il s'allonge. Puis, sans envahir un bien-être, il sourit. La femme se couche près de lui et ils font l'amour. Et une fois par semaine, c'est le même manège. Guillaume se sent mieux. Nicolas l'observe et voit que ce mieux est bizarre. L'air raide, dans les nuages, et en plus ne parle pas. Nicolas lui dit un soir: tu sais que cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas fait l'amour? Guillaume hausse les épaules. Nicolas n'insiste pas. Et puis un jour, la femme lui dit: non, je ne te piquerai pas. Plus tard. Quoi? Elle lui dit: si tu veux que je te pique, il faudra que tu fasses tout ce que je te demanderai. Demande-moi, et je le ferai. Elle lui dit: poignarde Nicolas. Non, je ne le peux pas. Demande-moi autre chose. Tue Nicolas. Je ne le peux pas. C'est moi-même que tu demandes de tuer. Non, je ne peux pas. Eh bien, tant pis pour toi. Va-t'en. Et il la quitte. On le ramène en voiture devant son immeuble. Il revient chez Nicolas, abattu. Il a de plus en plus de peine à marcher, à cacher son manque. Bouge constamment, crie, ne mange plus. Il entend constamment dans sa tête: tue-le, 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 prends le couteau, il crie: non, non. Nicolas se demande ce qui se passe, mais il n'ose pas dire ou faire quelque chose. Il n'ose pas. Guillaume ne voit plus la réalité tellement il souffre. Il crie à la mort. Il a des vomissements, des crampes, des douleurs, des estomacs. Voit des choses, des éclairs, des choses qui grossissent, grandissent, a l'impression que des fourmis le dévorent. Il voit des mouches, des insectes énormes, des bruits s'amplifient. Plus d'une fois, il manque de se jeter à la fenêtre. Il a fait peur à Guillaume. Mais que faire? Nicolas a peur aussi. Mais il n'ose rien dire, car Guillaume a des colères terribles. Puis, il y a des moments où il est pris comme s'il avait des hallucinations. Il se dit que pour guérir, il suffit de prendre le couteau. Durant le repas, chaque fois qu'il le voit, il le prend. le regarde et d'un coup le jette sur la table. Plus d'une fois, alors que Nicolas est à son bureau à écrire, Guillaume va à la cuisine. Prend le couteau, le cache sous sa manche et va vers Nicolas. Plus d'une fois, il est à deux doigts de le faire. Un matin, Nicolas se réveille. Il voit un couteau au-dessus de lui. D'un coup de pied, il fait tomber à la renverse Guillaume. Guillaume a caché le couteau. Il pleure à terre.
Nicolas se lève, se penche vers lui.
Il s'assoit près de lui, lui caresse le dos et lui demande « Qu'as-tu ? Que se passe-t-il ? » Ne répond pas. Il se baisse, ramasse le couteau qui est tombé à terre.
Il fait le geste de lui en donner un coup. Nicolas se retire et lance une chaise et qui fait tomber. Il fonce sur lui. Pour le maîtriser et lui prendre son couteau. Il lui tord le bras. Guillaume dans ce couteau, Nicolas d'un coup de pied le fait mettre, balancer sur un meuble.
Plaque Guillaume à terre. Contre lui. Maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé. Allez, raconte. Guillaume pleure. Elle lui raconte tout. Nicolas se soulève. Le soulève. Et va l'allonger sur le lit.
Je vais faire venir le médecin.
Le docteur est venu, a fait une piqûre à Guillaume et donné un petit traitement. Après, il reviendra. Nicolas va au commissariat expliquer l'histoire. Le commissaire et Nicolas vont voir la ville là. Elle est abandonnée depuis longtemps. Il n'y a rien. Le commissaire, un homme petit, maigre, à cheveux noirs, lui dit « C'est sûrement une hallucination de drogué. » En plusieurs jours, Nicolas est suivi par le médecin. Il est traité. Pendant plusieurs jours, Guillaume est suivi par le médecin. Il est traité chez Nicolas. Le traitement fait son effet et est redevenu normal. Un matin, quand Nicolas est près de son lit, Guillaume lui dit « Je demande pardon. Ce n'est rien. Mais que t'est-il arrivé ? C'est la femme, celle que je t'ai dit qui m'avait séquestré. Elle me donnait des potions, ça me faisait du bien. Mais dès que j'ai arrêté d'en prendre, j'étais comme fou. Puis elle voulait plus m'en donner. Il voulait m'en donner que si je te tuais. » Nicolas lui dit, « Je comprends. On a voulu te servir de toi pour me tuer, comme une bande humaine. Fais attention à toi. Tiens-toi sur tes gardes. Ils peuvent recommencer. Peut-être encore la dame en noir. Que nous veut cette femme? Pourquoi s'attaque-t-elle à notre famille? Qui est-elle? Nicolas écrit à Denis pour lui dire de se tenir sous ses gardes. La femme en noir peut encore frapper et lui raconte ce qui leur est arrivé. Denis fait attention. Sylvie en Australie pleure son innocence et écrit à ses parents pour qu'ils l'aident. Malheureusement, les parents ne peuvent rien faire pour elle. Nicolas, en réfléchissant, se dit que Guillaume a eu une relation avec une femme et une relation très forte. Dans le lit, il lui demande « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Guillaume le regarde et lui dit « Quelle question ? Tu es fou ? Bien sûr que je t'aime !» et se penche sur lui pour l'embrasser. Nicolas lui demande « Est-ce que tu aimes toujours faire l'amour avec moi ou est-ce que tu préfères les femmes ?» Guillaume lui dit lui répond en lui faisant l'amour fortement, très fortement. Les jours passent. Un jour, un journaliste vient voir Nicolas, un homme trapu, à cheveux rares, est habillé en un costume gris. Nicolas le reçoit dans son bureau. Le journaliste lui demande « Qu'est-ce que le cinéma pour vous et quel est votre film préféré ?» Nicolas lui répond « Tout d'abord, je ne suis pas critique ni cinéphile. » Il oublie qu'il a été et qu'il était critique d'une façon très virulente. Enfin, j'aime ou n'aime pas un film, c'est tout. Pour qu'un film me plaise, il doit m'apporter des sensations. Et doit me faire entrer dans un monde, un autre monde. J'aime pas les films dits de société ou qui traitent de sujets dans l'air du temps. Cela se démode trop vite et puis on va au cinéma pour se changer les idées. Si c'est pour voir un film qui traite des problèmes du moment, autant acheter un journal, écouter les infos à la radio ou voir un journal télévisé. On va dans l'obscur, c'est pour se changer les idées. Je le répète. Et c'est pour cela que le cinéma américain a tant de succès, parce qu'il montre des lieux qui ne sont pas les nôtres et des gens qui n'ont pas les mêmes comportements que nous. Le dépaysement est complet. Et il y a en plus l'histoire qui est enlevée et forte pour que le public ne s'ennuie pas. Les Américains pensent avant tout au public avant de se faire plaisir. C'est le contraire du cinéma français et cela semble bien marcher parce que leurs films ont du succès de partout et que nos films, hélas, ne sont vus nulle part ailleurs qu'en France. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, monsieur. En dînant, Nicolas parle de ce qu'il a dit au journaliste. Guillaume lui dit « Au lieu de parler de film, tu ferais mieux d'en faire. » Nicolas lui répond « J'attends que tu ailles mieux. » Et Nicolas cherche un sujet de film.
sonne à la porte de Nicolas. Il ouvre.
C'est un jeune homme dans les 20 ans, de taille plutôt moyenne, maigre, cheveux châtains, clairs, longs, visage osseux, habillé d'une vieille veste en plastique noir et d'un jean. « Je m'excuse de vous déranger, monsieur, mais j'aimerais savoir si vous n'aviez pas, par hasard, reçu un colis qui m'était destiné. Parce que moi aussi, je m'appelle Nicolas. » Nicolas lui répond « Non. » Le jeune ne semble pas vouloir s'en aller. Il a l'air très bien physiquement. Nicolas a envie. Il lui touche le blouson et lui dit « Il est bien ?» Le jeune lui dit « Il est un peu chaud. Il fait chaud. Et que faut-il faire? On peut tout de même pas se mettre à poil ?» Nicolas le regarde bien, de la tête aux pieds, et lui dit « Non, surtout que ça ne servira à rien. Et puis, vous êtes jeune, ça pourrait aller. Mais moi, ce serait une vraie horreur. Pourquoi dites-vous cela? Vous êtes bien? Merci. » Nicolas voit le jeune qui joue avec une jambe comme s'il avait envie. Il lui regarde le bord du pantalon. Mais comment voir avec un jean s'il bande? Le jean, c'est pas marrant. C'est raide, c'est pas bon à toucher, et ça voit, et l'on ne voit rien. L'on ne sent rien. Il a une ceinture, grosse ceinture de cuir, avec un gros ceinturon en forme de lettre. Vous avez une jolie ceinture? Oh, vous trouvez? Oui, elle est bien. Nicolas se demande s'il peut y mettre la main. Et là, si le jeune ne comprend pas, c'est la fin de tout. Tant pis, il essaye. De toute façon, ce n'est que toucher une ceinture. Ce n'est pas défaire le pantalon. Il y pose la main et dit « Elle est bien ?» Il la tripote. Le jeune lui dit « Oui, elle est bien. » Silence de mort. La main reste sur la ceinture. Il n'ose pas aller plus loin, ni lâcher prise. Pour un beau poisson, comme ça, ah ben surtout pas. Il fait jouer sa main sur la ceinture. Le jeune a la tête baissée et ne dit rien. Puis, sans y penser, Nicolas fait jouer la fermeture de la ceinture qui s'ouvre. Le jeune ne dit rien. Nicolas joue avec la ceinture. Le bas qui, avec le bas. Lève la tête, voit le jeune qui lui sourit. Jouant avec la ceinture, il touche avec le bout de ses doigts la braguette de plus en plus longtemps. Le silence est de mort. Puis, lève la main. Rien. Alors il appuie, il touche, sans que c'est dur. Il descend la fermeture éclair à glissière. Il enfonce la main à l'intérieur. La main touche le sexe, dur, sous le slip. Il est brûlant. Il continue à défaire le pantalon. Jambes. Slip. Il descend le slip. En lui caressant les fesses. Bien fermement. Et lui les baise. Se relève, il l'embrasse sur la bouche, en lui caressant les cheveux. Puis, lui caresse les fesses, se dégage. Et le mène finir dans la chambre. Plus tard, le jeune le quitte. Nicolas a un peu honte à cause de Guillaume, mais il se dit qu'il ne le saura jamais. Le jeune reviendra de temps en temps, toujours aussi gentil. Guillaume ne le saura jamais. Après cet intermède, Nicolas reprend son travail. Il cherche toujours un sujet pour un film. Pour un point de départ, il regarde souvent dans sa bibliothèque, les journaux, les faits divers. Ça va lui donner un bon point de départ pour son histoire, les romans, les biographies aussi. Mais là, rien, rien, rien. En regardant ses livres, il fait tomber la photographie d'un dame dans le parc. Il la regarde bien. Il se demande si dans les broussailles, il n'y aurait pas le visage d'une personne. Il faut agrandir la photographie et revoir le visage d'une personne. Peut-être celui d'une petite fille qui semble terrorisée. Il se demande qui peut être cet enfant. Après que ce soit qu'une tâche. Et puis cette photo a-t-elle été prise après la vente de la propriété ou lorsque le propriétaire y était encore? Et est-ce vraiment le château? Il se dit que s'il était à Lyon, il ferait une enquête, mais qu'il ne peut pas demander à Denis. Cela serait trop dangereux. Peut-être faire une enquête par un détective privé. Mais ce ne sont pas des gens qui ont l'air bien sérieux, en France en tout cas. Ils ne ressemblent pas du tout aux détectives des films américains. Mais entre la réalité de ces détectives en Amérique et ce que l'on voit dans les films, cela doit faire deux choses différentes. En regardant bien la photo, il voit une broche sur la robe de la femme qui le rappelle une des broches de sa mère. Il décide de lui demander d'où vient cette broche. Le mois suivant, il est chez ses parents avec Guillaume. Lorsqu'il est seul avec sa mère au salon, il lui dit « J'aimerais voir vos bijoux, mère.
Pourquoi ?»«
C'est pour un film. Comme je les trouve très jolis et élégants, je veux pour certains en faire une copie. »«
Bien, allons dans ma chambre. »
Et ils vont dans la chambre de la mère. Là, elle ouvre son secrétaire et en sort une grande boîte ciselée en argent. Elle ouvre et lui montre ses bijoux.
Tiens, regarde.
Il remarque la broche, la prend et lui demande d'où vient-elle?
C'est un bijou offert par une de mes amies pour mon mariage. C'est un bijou offert par une de mes amies pour mon mariage.
Quelle est cette amie qui t'a offert un si joli cadeau?
Oh, il y a de cela fort longtemps. Elle a disparu, on ne sait plus où, ce qu'elle est devenue. J'ai plus de nouvelles depuis très longtemps.
Son nom?
Et pourquoi?
Pour le bijoutier, pour la copie.
Mais le bijoutier est mort, voyons.
Où se trouve la bijouterie?
Mais elle n'existe plus, c'est devenu une laverie.
Donne-moi son adresse, elle soupire et lui dit.
Que tu es ennuyeux!
Elle prend un papier, écrit.
Tiens!
Merci, mère. Dans l'après-midi, il s'y rend. C'est rue des Archers. Mais le magasin est devenu un magasin de robes. Il voit que dans la vitrine, il n'y a que des robes noires de différentes formes. Il entre dans la boutique. C'est une femme habillée aux robes noires de taille moyenne, blonde à chignon d'un 60 ans. Elle a un collier de boucles d'oreilles et ses bijoux semblent en or.
Désirez, monsieur.
Elle le toise bien, comme si c'était un homme qui viendrait s'acheter une robe pour lui, pour se travestir.
Elle lui dit, si vous désirez une robe pour vous, vous ne pouvez l'essayer, c'est un magasin sérieux ici. Vous l'amenez et l'essayez chez vous.
Mais je ne suis pas...
Oui, je sais, mais je connais la musique. J'ai eu un magasin à Saint-Tropez pendant 20 ans, et des hommes venaient acheter des robes. Cela était extrêmement gênant pour moi, les vendeuses et les clientes. J'avais une très belle clientèle, vous savez. Bébé venait me prendre des jeans très serrés pour elle. C'était dans mon magasin qu'elle a inventé la chose de se coucher à terre pour se mettre un jean très serré et fermer la fermeture à glissière en s'aidant d'une ficelle. Comme vous voyez, j'ai connu beaucoup de choses. Si vous voulez une robe, vous la prenez et vous l'essayez chez vous.
Je ne veux pas une robe, madame. Je veux simplement un renseignement. J'aimerais le nom du bijoutier qui était avant vous à cette place.
Pourquoi ?
Parce que j'aimerais retrouver un bijou.
Malheureusement, le bijoutier est mort. Il n'a pas supporté les calomnies que l'on disait sur lui.
Et qu'est-ce qu'on disait ?
Que des filles entraient dans son magasin et n'en ressortaient plus.
A-t-il eu la famille ?
Non.
Il habitait où ?
Je crois à Oulin. L'adresse est son nom. Attendez, je vais chercher.
Elle quitte la boutique et va à l'arrière-boutique. Puis, elle revient avec un papier.
Tenez, je crois qu'il a une descendante. Peut-être une femme.
Va à Oulin en se souvenant du château. La maison où habitait l'horloger n'est pas près du château. Une maison de taille modeste, sans style, avec un bout de jardin sur le devant. Radio Canon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 42e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.